Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous avec ma femme d'aujourd'hui. On va découvrir ce que ça veut dire que se réinventer professionnellement, mais pas pour changer de casquette, au contraire, pour les empiler. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Salim Albouzouni, bonjour.
Bonjour.
Quel plaisir de t'avoir avec moi dans Femme d'aujourd'hui.
Le plaisir est plus que partagé, Yasmine. C'est toujours un plaisir d'être en ta compagnie.
Rabbi khalik. Alors, Lala Salima, la première des choses qui me vient à l'esprit quand je pense à toi, et la première question en fait que j'ai envie de te poser, c'est que tu es un vrai caméléon professionnel.
Bon, je pense que la vie est trop courte pour faire une seule chose.
Yek.
Ouais.
Alors, avant de rentrer dans les détails, quand tu dis la vie est trop courte pour faire qu'une seule chose, alors que très souvent, on se met dans des cases pendant très longtemps, on se met dans des cases professionnelles, familiales, des statuts, etc. Toi, à quel moment de ta vie tu as pris conscience de cette subtilité de la vie, justement?
En fait, quand j'étais étudiante à l'université, j'ai fait une école de commerce, j'ai étudié en gestion et mon dernier semestre, c'était un prof qui me connaissait bien. Qui m'a dit « Tu n'es pas à ta place ici parce que j'ai fait un exposé sur les cartons. »
Ok.
Et j'en ai parlé avec beaucoup de passion. Et ma mère est styliste, ma grand-mère l'était aussi, mais je n'avais jamais eu l'idée, en fait, d'en faire mon métier. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il était temps que je pense aux choses qui me passionnent, que je ne fasse pas juste une formation pour faire comme tout le monde. Et sur un coup de tête, j'ai abandonné mes cours parce que je devais faire une maîtrise. J'ai abandonné mes cours et je suis allée m'inscrire dans une école d'art pour étudier le stylisme.
Donc
mon
en fait,
père était contre.
Pardon, donc tu as fini tes études de commerce ou pas?
Oui, j'ai fini mes études de commerce et finalement mon master, je l'ai fait à l'ISCAE quand je suis rentrée au Maroc.
Ah, ok.
Ouais.
Alors,
parce que c'était la condition de mon père, donc de l'aéroport, il m'a emmené à l'ISCAE directement pour m'inscrire.
Et magnifique, et c'est une magnifique formation justement.
Oui, alhamdoulilah.
Alhamdoulilah. Oui. Donc en fait, tu as fait des études de commerce en France?
Oui, pas en France, au Canada.
Au Canada, ah ok, au Canada.
À Montréal,
oui. Ah, ok, et après, tu t'es inscrite en formation de mode à l'école d'art, là-bas ou au Maroc?
Là-bas, toujours, à l'Académie des arts et du design.
Et tu as passé combien de temps là-bas?
Au Canada, 10 ans.
Là, l'Académie.
Ah, un an et demi, parce que j'ai fait une formation intensive, 3 ans en un an et demi.
Ok, après tu rentres au Maroc?
J'ai fait mon master.
À l'ISCAE, ouais.
Et j'ai commencé en même temps l'école de la vie. Donc, j'ai fait un stage non rémunéré d'un an dans l'atelier de maman.
OK.
Et au bout d'un an, quelqu'un a choisi les créations que j'avais faites pour elle, pour passer une commande. Et donc, cette cliente a donné une avance et ma mère m'a appelée pour me dire « Félicitations, tu viens d'avoir ta première commande ». Et c'est comme ça que j'ai commencé et ça fait maintenant 13 ans.
13 ans. Alors, quand on a cette double casquette finalement, tu es créatrice dans l'âme par la formation, tu es cette artiste en fait. Mais en même temps, tu as eu cette formation et ça ne peut plus partir, tu as cette formation de businesswoman. Ok. Est-ce que ça t'a aidé? Parce que très souvent quand j'échange avec des stylistes, en fait, il y a l'expertise du métier. Mais il n'y a pas le mindset business derrière. Est-ce que toi, ça t'a aidé?
Énormément. Moi, je pense que c'est impossible d'être styliste sans avoir plusieurs casquettes. Parce que le styliste, surtout au Maroc, c'est l'acheteur, c'est le vendeur, c'est le marketeur, c'est le gérant, c'est le créatif, c'est lui qui fait tout. Et ça aide énormément d'avoir un bagage managérial, justement, et d'avoir le bagage aussi technique. Parce qu'on gère une équipe, mais on ne peut pas gérer une équipe si on ne sait pas faire leur travail à leur place. Et puis, bien sûr, aussi, quand on veut, par exemple, participer à des grands défilés comme Caftan, il faut faire un dossier, faire des recherches, savoir présenter un thème. Quand il y a eu le Covid et que le métier était un petit peu en arrêt, j'ai pu enseigner à l'Académie de mode. C'est grâce un petit peu à ma formation que j'ai pu faire ça. Et donc, oui, moi, je pense que c'est très important. D'ailleurs, j'ai toujours dit à mes enfants, je ne vous empêcherai jamais de faire ce que vous rêvez de faire, mais il faut avoir une formation de base qui est polyvalente, parce qu'on ne sait jamais. Et ça, le Covid nous l'a appris, on ne sait jamais ce qui peut se passer, donc c'est important d'avoir cette roue de secours.
Qu'est-ce que tu as appris de cette leçon de, finalement, « chase your passion » ?
Moi, je pense que, déjà, on passe minimum 8 heures par jour à travailler. Si on n'aime pas ce qu'on fait, on va être misérable. C'est hyper important pour moi d'être stimulée en continu. À travers les cafetans, j'ai toujours été... je me suis toujours éclatée sur un point de vue artistique. Mais par contre, j'avais l'impression que je n'apprenais pas de nouvelles choses, que je n'évoluais pas sur un plan intellectuel. Donc, j'ai toujours fait des formations en parallèle tout au long de ma carrière dans divers domaines. J'ai fait des formations en NFT, j'ai fait des formations en écriture de scénarios, j'ai fait des formations de toutes sortes. Et je me suis formée aussi pour devenir prof de yoga. Ça fait aujourd'hui 3 ans que j'enseigne le yoga. Et c'est ça un petit peu qui m'a ouvert sur le bien-être et sur la guérison pranique, les soins énergétiques, etc. Et c'est à travers tout ça que j'ai découvert l'auriculothérapie.
Alors, c'est quoi ce truc ? L'auriculo, alors moi, ça fait référence aux oreilles.
Exactement.
OK.
Exactement. En fait, c'est une technique de réflexologie qui utilise le pavillon de l'oreille comme une cartographie du corps, en stimulant des points précis. Donc, on peut le faire avec des aiguilles, comme en acupuncture classique,
ouais,
ou avec un laser, comme celui que nous, on utilise, ou avec des dispositifs auriculaires. Et on agit sur différents organes ou fonctions, comme le stress, le sommeil, les émotions, ou même la digestion, par exemple.
Mais alors, qu'est-ce qui t'a amené du stylisme au yoga aux oreilles ? Parce que le terme est trop compliqué pour moi, pour que je...
Le yoga, en fait, c'était le cadeau que je me suis offert pour mes 40 ans, la formation de yoga. Je voulais me faire du bien. Et ça m'a apporté beaucoup plus que ce que je recherchais. Ça m'a aidé sur un plan personnel. Je me suis retrouvée dans un monde où toutes les personnes autour de moi étaient comme moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'appartenais déjà à ce monde, c'est juste que je ne le connaissais pas. Et à travers ça, avec un ami à moi, on a fondé Dream Awake Experiences. Donc, on organise des retraites yoga à travers le Maroc. Ça fait maintenant 2 ans et demi. On est à notre 12e retraite. Et c'est extraordinaire parce qu'on fait de très belles rencontres. Ça nous permet de sortir de notre quotidien, de connecter avec les gens. Et donc, je donne des cours de yoga et j'anime des ateliers méditation, cercle de parole. Et aussi les soins énergétiques pendant les retraites.
Mais c'est magnifique tout ça. Mais alors, la question qui s'impose à moi. D'abord, on arrive aux oreilles. Et après, il y a une question qui s'impose, c'est que finalement, est-ce qu'on peut bien faire les choses quand on fait plusieurs choses ? Mais d'abord, on parle des oreilles. Donc, styliste, yoga, oreilles. Quelle connexion entre les trois ?
Peut-être que j'ai un côté schizophrène. La connexion entre les trois, en fait, j'aime faire du bien. Quand j'accompagne quelqu'un dans sa lutte contre une addiction, surtout les grosses addictions, c'est un parcours assez long. Donc, on se voit plusieurs fois, on fait plusieurs séances et je vois la transformation au fur et à mesure. Et quand c'est la dernière séance et que je félicite cette personne et qu'elle me remercie de l'avoir aidé à arriver à ce stade-là, c'est plus que gratifiant. Moi, c'est ma raison d'être, en fait. Et j'aurais jamais imaginé que l'auriculothérapie allait autant m'apporter. À travers le design, c'est mon côté artistique. Je pense que c'est un peu héréditaire dans ma famille. Moi, je suis la 3e génération de stylistes dans ma famille. Et c'est un peu la même chose, parce que quand une mariée m'appelle pour me dire j'étais la plus belle ou ma tenue était la plus belle, merci, ça fait ma journée. Et c'est ça qui me permet de continuer et de continuer à créer. Et je m'en lasse jamais, en fait. Quand je suis à l'atelier, c'est comme si je jouais à la poupée. Bien sûr, c'est un métier extrêmement stressant. Il y a toute la logistique derrière, etc. Mais l'aspect créatif, en fait, ça permet de balancer le côté stressant.
Ouais.
Et le yoga, c'est ce qui me permet vraiment de faire le vide d'énergie négative et le plein d'énergie positive.
C'est pour toi aussi avant tout, en fait.
Absolument, absolument. En fait, quand j'ai fait la formation, j'avais aucune intention d'enseigner. Je l'ai faite pour moi parce que je voulais maîtriser ma pratique et m'améliorer. Et c'est mon ami qui a eu l'idée. Et d'ailleurs, le jour où il m'a annoncé qu'il voulait organiser une retraite yoga, Il m'a annoncé qu'il l'avait déjà postée, qu'elle était déjà en ligne et que c'était moi la prof et qu'il a déjà mis ma photo et mon nom. J'avais pas le choix, en fait.
Et c'est excellent.
Et au début, ça m'a stressée parce qu'il m'a mis devant le fait accompli. Je n'étais pas du tout prête. Je venais d'avoir le diplôme. Mais
tu lui en as voulu au début?
Non, je n'en ai pas voulu. J'étais juste un peu brusquée. Et aujourd'hui, j'ai tellement de reconnaissance envers lui. Et chaque retraite yoga, on fait toujours un cercle de parole à la fin de la retraite. Et je prends toujours un moment pour le remercier. Et j'ai souvent les larmes aux yeux parce que ça a été une très belle aventure du début jusqu'à aujourd'hui. Et j'espère qu'elle durera encore très longtemps.
Alors, cette question, quand on fait plusieurs choses, est-ce qu'on peut bien les faire? Comment ça fonctionne? Comment toi, tu t'organises, Salima?
Ça a un prix. Ça a un prix quand on fait plusieurs choses. Je suis quelqu'un qui ne dort pas beaucoup. Je vis à 1000 à l'heure. Ça me coûte des moments de qualité avec ma famille.
Quand tu dis je ne dors pas beaucoup, c'est ta nature ou tu, par la force des choses?
C'est ma nature.
Oui.
Ma nature.
Donc déjà, ça, c'est un plus.
Très réparateur, heureusement.
Oui.
Donc même si je dors peu d'heures, j'arrive à fonctionner quand même. Mais si je veux pouvoir faire tout ce que j'ai à faire, ben, je dors tard et je me réveille tôt. Je n'ai pas le choix. Quand tout le monde dort à la maison, quand c'est calme, c'est là que j'ai le temps de planifier, de répondre à mes messages, de m'organiser, etc. Et en fait, je ne sais pas vivre autrement. Même quand j'étais étudiante, j'ai toujours eu un petit boulot en parallèle. Je suis quelqu'un qui a besoin de vivre comme ça. En fait, moi, passer une journée devant Netflix, bon, ça peut m'arriver. Des fois, je suis très fatiguée et je me dis, OK, aujourd'hui, j'ai envie de passer la journée au lit. Mais je sens que je n'ai pas été productive et je n'aime pas me sentir comme ça. Je n'aime pas sentir que j'ai perdu une journée à rien faire.
En fait, c'est ce qui fait que tu peux faire toutes ces choses-là, c'est qu'à la base, c'est un tempérament, c'est une personnalité, c'est une façon d'être qui a toujours existé.
Mettre au boulot dodo, ce n'est pas une vie qui me correspond. Je ne peux pas être derrière un bureau, enfermé en face d'un ordinateur de 8h à 18h avec un train-train. J'en serais incapable, je serais malheureuse. J'aime rencontrer des gens tous les jours. Pour moi, la connexion humaine, c'est vraiment la chose qui me booste le plus. À chaque fois que je rencontre des gens et que j'échange avec eux, pour moi, c'est une richesse. Et le fait de faire plusieurs choses aussi, ça me permet d'évoluer. Je me sens polyvalente, ça me fait du bien.
Alors, quand tu as dit ça me coûte quand même, donc oui. J'ai bien compris que tu avais, on va dire, des compétences ou des avantages par rapport à beaucoup d'autres, notamment cette capacité à ne pas beaucoup dormir, toutes ces choses-là. Mais en même temps, tu as dit ça me coûte et tu as parlé de la famille. Quand tu parles de la famille, est-ce que c'est au sens large ou bien c'est au sens nucléaire, c'est-à-dire à commencer par tes enfants?
Non, mes enfants, c'est vraiment ma priorité dans la vie. Donc, quand je suis là, à la maison, je suis avec eux, je m'en occupe, j'essaie de passer le maximum de temps avec eux. Mais très souvent, je suis avec eux en train de jouer et je réponds à un message sur Instagram en même temps. Et des fois, mon aîné, il s'en plaint parce que je leur fais de temps en temps des sevrages d'écran. Et des fois, il me dit, mais c'est pas juste. Moi, j'ai pas le droit de jouer à la PlayStation et toi, tu restes sur Instagram. Et je lui dis, mais moi, je suis pas en train de jouer sur Instagram.
Et tu dis donc, pas, mais moi, je suis ta mère, tout court.
Hein? Ouais. Et j'essaye de mettre en place En fait, je mets des petits réveils pour justement poser les téléphones et pour avoir un temps qualitatif avec eux. Mais ça me stresse parce que quand je passe une heure avec le téléphone de côté, je sais qu'après, j'aurai beaucoup de messages à gérer et je suis dépassée par la suite. Mais j'ai un secret. J'ai un mari qui est très présent, qui m'aide énormément. D'ailleurs, il a fait la même formation que moi. On est tous les deux praticiens. Et c'est ce qui me permet de basculer entre mes deux métiers. D'ailleurs, la semaine prochaine, je pars pour le Moga Festival du 1er au 5 octobre. Je vais donner des cours de yoga à tous les festivaliers. Et je n'aurais pas pu le faire. Il n'était pas là pour prendre la relève et pour faire les séances aux patients. Il est très présent avec les enfants aussi. Donc, quand je ne suis pas là, je ne culpabilise pas parce que mes enfants, ils ne sont pas avec une nounou ou avec un étranger, ils sont avec leur père.
Ouais.
Et j'aurais pas pu faire tout ce que je fais s'il n'avait pas été là.
Absolument.
Et j'en profite pour le remercier.
Absolument, c'est ça en fait, c'est que quand on est maman, quand on est en couple, on arrive à s'épanouir professionnellement grâce à son partenaire de la vie.
Absolument.
Parce que sinon, même si on essaie de faire les choses seul, s'il n'y a pas cette entente, ce support, ben en fait ça se fait mais dans la douleur quand même.
Ça, ouais,
et ça peut entraîner des séparations, des divorces, des choses comme ça. Voilà, c'est une réalité. C'est-à-dire, quand on voit une femme, ouais. peut-être surtout dans notre contexte à nous, maghrébins, marocains, arabos, musulmans, etc., c'est quand une femme est épanouie professionnellement, c'est que derrière...
Il y a un support system derrière.
Voilà, exactement. Ouais, exactement. Absolument. Quand une femme est épanouie professionnellement, alors qu'elle est en couple, bien sûr. Je ne parle pas des femmes qui ne sont pas en couple. Ouais. Voilà, on ne peut pas finalement s'en sortir seule quand on est en couple. Il faut absolument le soutien. Ça donne en fait une sérénité.
Et c'est important d'être une équipe.
Ouais.
Parce que finalement, on va vers le même objectif, on fonde le même foyer, on a le même rêve, donc c'est important de travailler ensemble, pas chacun de son côté.
Mmh, absolument. Alors, est-ce qu'on peut essayer de comprendre ces histoires d'oreilles et d'addiction ?
Très bien. Alors, en fait, l'auriculothérapie, elle repose sur des bases neurophysiologiques. Donc, l'oreille, elle est directement liée au système nerveux. Et c'est ce qui nous permet justement de pouvoir... traiter un tas de choses, le stress, l'anxiété, la douleur, l'insomnie, mais aussi les addictions comme le sucre, le tabac, l'alcool, les drogues, mais aussi les addictions, pas uniquement les addictions physiques, mais aussi les addictions comportementales. Et en fait, ça permet d'aider, ça aide à réguler les centres du plaisir et à calmer les envies. Et ça permet de diminuer la production de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et l'avantage dans tout ça, c'est que c'est une méthode douce qui reste naturelle, qui est respectueuse du corps. Il n'y a aucune contre-indication, aucun risque, aucun effet secondaire. En tout cas, avec le type de laser que nous, on utilise chez LaserTouch. Parce que le laser qu'on utilise, c'est un laser à technologie LED. Ce n'est pas un laser infrarouge, c'est pas un laser électrique. D'ailleurs, on n'a pas besoin de porter des lunettes de protection pendant le soin, ni pour le praticien, ni pour le patient. Et on peut utiliser ce laser même sur un enfant en bas âge ou pour une femme enceinte ou pour une personne qui est épileptique.
Mais est-ce qu'il y a une base scientifique derrière qui fait que... Justement,
absolument. Oui. Alors, l'auriculothérapie a été découverte par le médecin docteur Paul Nogier dans les années 50. Et ça a été approuvé par l'Organisme mondial de la santé depuis 1987. D'ailleurs, l'auriculothérapie, elle est pratiquée dans plusieurs hôpitaux en France. Elle est même remboursée par certaines mutuelles.
D'accord. Et par rapport à la méthode que vous utilisez, est-ce qu'il y a justement une base scientifique
Oui, il y a plusieurs recherches qui ont été faites sur... plusieurs études scientifiques qui ont été faites sur l'auriculothérapie et qui ont démontré son efficacité justement dans la gestion du stress ou dans les addictions, par exemple. Mmh. Et en fait, comment ça fonctionne? Si je prends l'exemple du tabac, quand on fait... donc, en fait, chaque soin a un protocole précis, un certain nombre de points dans un certain ordre donné. Et quand on stimule la cellule nerveuse, c'est comme si on la remet à zéro. Donc, on lui efface la mémoire, en quelque sorte. Mmh. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est efficace dès la première séance, parce que la cellule nerveuse, elle ne va plus réclamer la nicotine si elle ne se souvient pas l'avoir déjà consommée.
Ok.
Parce qu'en fait, comment on devient addict
On fume. Mais justement, dans la cigarette, c'est aussi la gestuelle, en fait. C'est pas uniquement le produit. La ritualisation, exactement. Oui. C'est la gestuelle,
Oui, justement, je vais venir à ce point. Juste pour vous expliquer en fait comment on devient addict quand on consomme. Donc la nicotine, ça sécrète de la dopamine, c'est la molécule du plaisir. Et plus on va consommer, plus la sécrétion va s'affaiblir et plus le délai entre deux cigarettes va se réduire. Et c'est comme ça qu'on passe d'une consommation d'une cigarette par jour à deux paquets par jour. D'accord. Donc la séance, elle va débarrasser le patient de son besoin physique de consommer. Mm-hmm. C'est-à-dire que son corps ne va plus lui réclamer la nicotine. Donc ça ne sera pas une lutte contre son corps. Alors par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une baguette magique. C'est pas parce qu'on fait la séance tout de suite c'est bon, on va arrêter de fumer. C'est très important dans un premier temps d'avoir pris sa décision avant de venir à la séance. Parce que la séance ne prendra pas la décision à votre place. Et nous, on ne fait pas juste lui faire le soin et l'envoyer chez lui. On fait tout un suivi et on explique, on donne beaucoup de conseils pour expliquer à la personne comment elle doit changer ses habitudes, en particulier les premières semaines, Pourquoi ? Parce que justement, le tabac, il y a cette ritualisation du geste. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vont consommer le tabac avec le café le matin. Mmh. Ça, c'est un rituel. Juste le fait de changer la tasse de café par une tasse de thé, le fait que l'odeur soit différente, ça envoie une information différente au cerveau. Et le cerveau ne va plus faire le lien entre le café et le thé. Ça ne sera plus un déclencheur.
Mais alors, je peux vous assurer, je vais le dire trash, entre tbouika de pas de cigarette et tbouika de pas de café, les deux en un, ça va être terrible hein, pour cette...
C'est juste un exemple. Nous, on donne beaucoup de conseils, mais on n'impose rien.
Bien sûr, bien
pour
sûr.
Pour faciliter la transition.
Oui.
Et en fait...
En fait, ce n'est pas une solution miracle, mais c'est un appui.
Ça aide énormément.
Ça aide.
Énormément. En fait, quand la personne... D'ailleurs, on a un taux de réussite beaucoup plus élevé chez les gros fumeurs que chez les petits fumeurs. Mmh. Pourquoi ? Parce qu'un gros fumeur, il a déjà des symptômes physiques. Il a en règle générale de l'essoufflement ou des sifflements ou de la toux ou des crachats. Il a déjà le teint gris et des rides. Donc, il est en quelque sorte déjà dégoûté de la cigarette. Mmh. Il a un rapport de dégoût avec la cigarette, mais il ne peut pas arrêter parce que son addiction physique est très forte. Donc, quand on va lui faire la séance et qu'on va le débarrasser de son besoin physique, lui, on n'aura pas besoin de le convaincre. Il va
arrêter
tout de suite.
C'est ça.
Alors qu'un petit fumeur qui n'associe la cigarette qu'au plaisir...
Ça va être plus compliqué.
Arrêter,
exactement.
Voilà. Et souvent, les gens, ils m'appellent, ils me disent, je veux bien venir tester. Et je leur dis, ça ne sert à rien, parce que si vous venez, ce n'est pas pour tester, c'est pour arrêter.
C'est
et
ça.
Puis moi, un sevrage qui n'est pas réussi, ce n'est pas bon pour ma réputation non plus.
Absolument.
Donc je suis très claire là-dessus, et je leur explique dès le départ qu'il faut prendre le temps de réfléchir, prendre sa décision, et ensuite venir faire la séance. Et ce qu'il faut aussi comprendre, des fois, les gens, ils me disent, oui, moi, j'ai déjà fait de l'auriculothérapie, mais ça ne marche pas, parce qu'au bout de 6 mois, j'ai refumé. Mais si vous avez arrêté de fumer pendant 6 mois, justement, c'est la preuve que ça a fonctionné.
C'est ça.
Et quand on est addict à vie.
Bien
c'est-à-dire
sûr.
Quand on va voir les alcooliques anonymes, même s'il est sobre depuis 20 ans, il va se présenter, il va dire « je suis alcoolique et sobre depuis 20 ans
ouais. ».
Et donc, si on reprend, après 6 mois, ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner. Ça veut dire que ça s'appelle une rechute, tout simplement.
C'est ça.
Et la rechute... On n'est jamais à l'abri de la rechute, même après 20 ans. Il suffit qu'on ait un événement stressant ou tragique pour retomber dedans. Et donc, c'est pour ça que c'est important. Nous, on leur explique, on les aide à identifier leur motivateur et leur déclencheur. Leur motivateur, parce que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est ça qui va faire en sorte qu'on ne rechute pas. Et le déclencheur, parce qu'il faut le surveiller, il faut garder l'œil dessus, parce qu'il peut arriver à n'importe quel moment. Mais c'est pour cette raison que nous, on donne une garantie. On donne une garantie d'un an et on donne 4 séances supplémentaires. Comme ça, en cas de rechute, au lieu que la personne recommence à fumer comme avant, elle revient refaire une autre séance. Et c'est comme si cette rechute n'a jamais eu lieu, continue le sevrage.
Salim Al-Boussouni, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci à toi, Yasmine. Merci pour l'invitation.
C'est un plaisir. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.